Sophie et Alberto avaient franchi le pont de Brevik et arrivèrent à la bifurcation vers Kragerø. « Tu roules à 180 ?» dit Sophie. « Il est presque 9 heures. Il ne va pas tarder à atterrir à l'aéroport de Kievik. De toute façon, on ne peut pas être pris en infraction de vitesse.
Et si nous avons un accident ?»«
Cela n'a aucune importance si c'est contre une voiture normale. En revanche, contre une voiture comme la nôtre, eh bien, il faut faire attention, c'est tout. »
Oui, mais ça ne va pas être facile de doubler ce bus de tourisme. La forêt longe la route des deux côtés.
Ça ne fait rien du tout, Sophie. Il va falloir que tu t'habitues. En disant ces mots, il donna un coup de volant et traversa l'épaisse forêt comme si de rien n'était. Sophie soupira soulagée.
Tu m'as fait peur.
On ne sentirait rien, même si on traversait un mur en acier.
Cela signifie que nous sommes seulement des esprits par rapport au monde environnant.
Non, tu vois les choses à l'envers. C'est la réalité autour de nous qui n'est qu'une aventure de l'esprit pour nous.
Attends, je ne te suis pas.
Alors écoute bien. C'est un malentendu largement répandu que l'esprit est d'une nature plus aérienne que la vapeur d'eau. Mais c'est le contraire. L'esprit est plus solide que la glace.
Je n'y ai jamais pensé.
Alors je vais te raconter une histoire. Il était une fois un homme qui ne croyait pas aux anges. Un jour, cependant, un ange vint le visiter pendant qu'il travaillait dans la forêt.
Et alors ?
Ils marchèrent ensemble un moment. Vers la fin, l'homme se tourna vers l'ange et lui dit
« Oui, me voilà obligé d'admettre que les anges existent, mais vous n'existez pas vraiment comme nous. »
« Qu'entends-tu par là ? » demanda l'ange. Et l'homme répondit
« Lorsque nous avons croisé un gros rocher, j'ai dû le contourner, mais j'ai vu que tu n'as fait que passer à travers. De même que quand un tronc couché nous a barré le chemin, j'ai été obligé de l'enjamber, alors que toi, tu as continué à marcher tout normalement. »
Cette réponse surprit beaucoup l'ange qui dit « N'as-tu pas remarqué que nous avons aussi traversé un marécage ? Là, nous avons pu tous les deux marcher dans le brouillard. C'était parce que nous avons une consistance beaucoup plus solide que le brouillard. »
Ah !
Il en va de même pour nous, Sophie. L'esprit peut traverser des portes d'acier. Aucun tank ni aucun bombardier ne peuvent détruire quelque chose qui est fait d'esprit.
Ça fait tout drôle de penser à ça.
Nous arriverons bientôt à Risør, et cela fait à peine 1 heure que nous avons quitté Majorstua. Je prendrai bien un café.
À la hauteur de Fiané, juste avant Sundeled, ils aperçurent une cafétéria sur la gauche. Elle s'appelait Cinderella. Alberto quitta la route et gara la voiture sur un bout de pelouse. Au café, Sophie s'efforça vainement de soulever une bouteille de Coca-Cola du comptoir, mais on eût dit qu'elle était collée. Un peu plus loin, Alberto essayait d'appuyer sur la machine à café, mais il avait beau appuyer de toutes ses forces, rien n'y faisait. Il devint si furieux qu'il se retourna et réclama de l'aide des autres clients. Comme personne ne réagissait, il se mit à crier si fort que Sophie dut se boucher les oreilles.
« Je veux du café !»
Il ne devait pas être si en colère que ça, car la seconde d'après, il éclata de rire.
« Ils ne peuvent nous entendre, c'est vrai. Nous ne pouvons pas non plus nous servir de leur café. »
Ils allaient partir, quand soudain, une vieille dame se leva et alla vers eux. Elle portait une jupe rouge vif, un pull tricoté main, bleu glacier, et un foulard blanc sur la tête. Ses couleurs et toute sa personne tranchaient sur le reste de ce café plutôt terne.
« Qu'est-ce que tu as à crier comme ça, mon garçon ?»«
Excusez-moi. »«
Tu voulais du café, c'est ça ?»«
Oui, mais... »«
Nous avons un petit établissement un peu plus loin. »
Ils suivirent la vieille femme et s'engagèrent sur un sentier derrière la cafétéria. Chemin faisant, elle demanda.
« Vous êtes nouveau dans le coin, hein ?»«
Oui, on peut dire ça comme ça, » répondit Alberto.
« Alors bienvenue au royaume de l'éternité, mes enfants. »
« Et vous-même ?»«
Je viens d'un conte des frères Grimm. Ça va bientôt faire 200 ans. Et ils viennent d'où, ces petits jeunes ?»«
Nous venons d'un livre de philosophie. Je suis professeur de philosophie et Sophie est mon élève. »
« Eh bien, voilà qui change un peu !»
Ils débouchèrent dans une clairière. Il y avait plusieurs maisons brunes accueillantes. Sur la petite place au milieu, brûlait un grand feu de la Saint-Jean, et tout autour dansait une joyeuse compagnie. Sophie reconnaissait la plupart de ses personnages. Il y avait Blanche-Neige et les Sept Nains, Cendrillon, Sherlock Holmes, Peter Pan et Fifi Brin d'Acier. Autour du feu se trouvaient aussi rassemblés tous ces êtres qu'on appelle elfes, lutins, faunes, trolls, anges et diablotins. « Oh là là, quelle animation !» s'exclama Alberto.
« C'est le soir de la Saint-Jean !» expliqua la vieille femme. « Nous n'avons pas eu pareille fête depuis la nuit de Walpurgis. Ça se passait en Allemagne. Je ne suis ici que de passage. Tu voulais du café, c'est bien ça ?»«
Oui, merci. » C'est alors que Sophie comprit que toutes les maisons étaient en pain d'épices, en caramel et en sucre glace. Plusieurs des personnages prenaient des petits bouts de maison qu'ils grignotaient. Une cuisinière effectuait des rondes et réparait les dommages au fur et à mesure. Sophie prit un morceau du fait d'un toit. Il lui semblait n'avoir jamais rien goûté d'aussi délicieux de toute sa vie. L'instant d'après, la vieille femme revenait avec une tasse de café. « Merci infiniment, » dit Alberto.
« Et avec quoi allez-vous payer ?»«
Comment ça, payer ?»«
D'habitude, nous payons en racontant une histoire. Pour un café, un court passage suffit. »
« Nous pouvons raconter l'histoire mouvementée de l'humanité, » dit Alberto. « Mais le hic, c'est que je suis horriblement pressé. Ne pourrions-nous pas revenir payer une autre fois ?»«
Naturellement. Mais pourquoi êtes-vous si pressé ?»
Alberto expliqua ce qu'ils avaient à faire, et la vieille femme dit
« Oh, pour une fois qu'on voyait des visages nouveaux. Mais il va falloir bientôt couper le cordon ombilical avec votre origine charnelle. » « Nous ne dépendons plus de la chair et du sang des hommes. Nous appartenons au peuple invisible. »
Peu après, Alberto et Sophie retrouvaient la cafétéria Cinderella et la voiture rouge. Juste à côté, une maman énervée aidait son petit garçon à faire pipi contre une autre voiture. En prenant quelques raccourcis à travers champs et fourrés, ils arrivèrent rapidement à l'île Sand.
L'avion SK-876 de Copenhague atterrit très exactement à 21h35. Au moment du décollage, le major avait ouvert la dernière enveloppe qu'il avait trouvée collée sur le comptoir d'embarquement, adressée au major Knag à son passage au comptoir d'embarquement le soir de la Saint-Jean 1990. Il l'avait lu. « Cher papa, tu t'attendais peut-être à me voir apparaître en chair et en os à Copenhague. Mais le contrôle que j'exerce sur tes faits et gestes est plus subtil que ça. Je te vois partout, papa. En effet, j'ai rendu visite à une vieille famille tzigane qui a vendu il y a bien longtemps un miroir magique en laiton à mon arrière-grand-mère. Je me suis en outre procuré une boule de cristal. Je peux voir que tu viens tout juste de t'asseoir dans ton fauteuil. Aussi, vais-je simplement te rappeler que tu es prié d'attacher ta ceinture de sécurité et de garder le dossier de ton siège relevé jusqu'à ce que le signe « Fasten Seat Belt » soit éteint. Dès que l'avion aura pris sa vitesse de croisière, tu pourras faire basculer ton siège et t'accorder un petit somme. Il serait sage d'arriver reposé à la maison. Il fait à l'île Sand un temps splendide, mais la température est inférieure de quelques degrés à celle du Liban. Je te souhaite un agréable voyage. Ta petite sorcière préférée, reine du miroir et grande protectrice de l'ironie, qui t'embrasse. Albert ne savait toujours pas s'il était vraiment en colère ou simplement mort de fatigue. Soudain, il se mit à rire. Il rit si fort que les passagers autour de lui se retournèrent et le regardèrent d'un air surpris. Puis, l'avion décolla. Elle lui avait tout bonnement rendu la monnaie de sa pièce. Mais ça faisait un drôle d'effet. Certes, il avait manipulé Sophie et Alberto, mais eux n'étaient que le produit de son imagination. Il fit ce que Hilde lui avait conseillé de faire. Il fit basculer le dossier de son siège et piqua un somme. Il ne se réveilla tout à fait qu'après avoir passé le contrôle des passeports, quand il se retrouva dans le hall d'arrivée. Il fut alors accueilli par une véritable manifestation. Ils étaient environ une dizaine, la plupart de l'âge de Hilde. On pouvait lire sur les pancartes « Bienvenue à la maison, papa. Hilde t'attend dans le jardin. » Et l'ironie continue. Le pire, c'était qu'il ne pouvait pas sauter dans un taxi. Il devait attendre ses bagages. Et pendant tout ce temps, les camarades de classe de sa fille tournaient autour de lui, l'obligeant à lire et relire ses pancartes. Mais quand une des filles vint lui donner un bouquet de roses, il fondit. Il glissa la main dans un des sacs en plastique et distribua les chocolats à tous les manifestants. Il n'en restait plus que deux pour Hilde. Quand il eut enfin récupéré ses bagages sur le tapis roulant, un jeune homme s'avança, expliqua qu'il agissait sur ordre de la reine du miroir et qu'il avait pour mission de le ramener à Birkeli. Les autres manifestants se perdirent dans la foule. Ils prirent la E18. Au-dessus de tous les tunnels et tous les ponts, des banderoles disaient « Bienvenue à la maison. La dinde t'attend. Je te vois, papa. » Quand ils arrivèrent enfin à Birkeli, Albert Knag poussa un soupir de soulagement et glissa au chauffeur un billet de 100 couronnes ainsi que 3 canettes de bière Carlsberg en guise de remerciement. Sa femme, Marit, l'attendait sur le pas de la porte. Il l'embrassa longuement avant de demander « Et elle, où est-elle ?»« Elle est sur la jetée, Albert. »
Alberto et Sophie garèrent la voiture de sport rouge sur la place du marché à l'île Sand, devant l'hôtel Norge. Il était 10h moins le quart. Ils aperçurent un grand feu de joie sur une des îles de la côte. « Comment allons-nous faire pour trouver Birkeli ?» demanda Sophie. « Il suffit de chercher. Tu te souviens du tableau dans le chalet du major ?»«
Mais il faut se dépêcher. Je voudrais être là-bas avant lui. »
Ils prirent des petites routes, mais coupèrent par des collines et des rochers. Une chose était sûre, Birkeli se trouvait au bord de la mer.
Tout à coup, Sophie poussa un cri. « C'est là! Nous l'avons trouvé !»«
Je crois que tu as raison, mais il ne faut pas crier comme ça. »«
Bah, personne ne peut nous entendre. » »«
Ma chère Sophie, après tous les cours de philosophie que je t'ai donnés, ces conclusions hâtives me déçoivent de ta part.
Mais
tu ne crois tout de même pas que cet endroit est totalement dépourvu de lutins, de trolls, d'esprits des bois et de bonnes fées.
Oh, pardon.
Ils traversèrent la porte du jardin et remontèrent l'allée de gravier devant la maison. Alberto garra la voiture sur la pelouse à côté de la balancelle. Un peu plus loin dans le jardin, une table était dressée pour 3 personnes.
« Je la vois !»
chuchota Sophie.
« Elle est en bas sur la jetée, exactement comme dans mon rêve. »«
Vois-tu à quel point ce jardin ressemble au tien, allée des trèfles ?»«
Oui, c'est vrai, la balancelle et tout. Je peux aller la retrouver ?»«
Évidemment, je t'attends ici. » Sophie courut vers la jetée. Elle faillit trébucher et bousculer Hilde, mais elle se calma et s'assit tranquillement à côté d'elle. Elle était en train de jouer avec les amarres d'une barque attachée à l'embarcadère. Dans la main gauche, elle tenait un petit papier. Il était clair qu'elle attendait. Elle regarda plusieurs fois sa montre. Sophie trouva qu'elle était si belle. Ses longs cheveux blonds tombaient en boucles sur ses épaules et ses yeux brillaient d'un bel éclat vert clair. Elle portait une robe d'été jaune. Elle lui faisait un peu penser à Jorun. Sophie essaya de lui dire quelque chose, bien qu'elle sût que c'était inutile.
« Hilde, c'est moi, Sophie !»
Aucune réaction. Sophie se mit à genoux et essaya de lui crier dans les oreilles.
« Tu m'entends, Hilde? Ou est-ce que tu es sourde et aveugle ?»
Il lui sembla lire un certain étonnement dans son regard. N'était-ce pas le signe qu'elle avait entendu quelque chose, même très faiblement ? Hilde se retourna, fit un brusque mouvement de tête sur la droite et regarda Sophie droit dans les yeux. Mais son regard ne faisait que la traverser, à la recherche d'autre chose.
« Pas si fort, Sophie !»
C'était Alberto qui lui parlait de là-haut, à côté de la voiture de sport rouge.
Je ne veux pas voir ce jardin envahi par des sirènes. »
Sophie resta silencieuse. Elle était heureuse de pouvoir enfin être assise à côté de Hilde. Soudain, on entendit une grave voix d'homme.
« Ma petite Hilde, chérie !»
C'était le major, en uniforme, avec son béret sur la tête. Il était là-haut, dans le jardin. Hilde bondit sur ses pieds et courut à sa rencontre. Entre la balancelle et la voiture de sport rouge, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis, il la fit tournoyer dans les airs.
Hilde avait finalement décidé d'attendre son père sur la jetée. Depuis que son père avait atterri sur le sol norvégien, elle s'était mentalement représentée au quart d'heure près ses moindres faits et gestes, ainsi que ses réactions. Elle avait noté tous ses horaires sur un bout de papier qu'elle n'avait pas lâché de la journée. Et s'il se mettait en colère? Mais il devait bien se douter qu'après lui avoir écrit un livre aussi étrange, les choses ne pouvaient plus être comme avant. Elle regarda encore une fois sa montre. Il était 10h15. Il devait arriver d'un instant à l'autre. Mais qu'est-ce que c'était? N'entendait-elle pas un faible souffle, tout comme dans le rêve de Sophie? Elle tourna rapidement la tête. Il y avait vraiment une présence, elle en était sûre. Mais une présence de quoi? N'était-ce que le charme mystérieux d'une soirée d'été? L'espace de quelques secondes, elle se crut douée de voyance. « Ma petite Hilde chérie !» Elle tourna la tête de l'autre côté. C'était son père. Il l'attendait, là-haut, dans le jardin. Hilde se leva et courut vers lui. Ils se retrouvèrent près de la balancelle. Il la souleva de terre et la fit tournoyer dans ses bras. Hilde avait les larmes aux yeux, et le major avait lui aussi du mal à retenir ses larmes. « Comme tu as grandi, Hilde. Une vraie petite femme, dis donc. Et toi ? « Tu es devenu un vrai écrivain !» répondit Hilde en s'essuyant les yeux avec la manche de sa robe jaune. « Alors, on est quitte ? On est quitte !» Ils se mirent à table. Hilde voulut savoir en détail tout ce qui s'était passé à l'aéroport de Copenhague et sur le chemin du retour. Ce fut une succession de fous rires. « Alors tu n'as pas trouvé l'enveloppe dans la cafétéria ?» Je n'ai pas eu une minute pour m'asseoir et boire quelque chose, petite peste va. Je meurs littéralement de faim. Pauvre petit papa. Le coup de la dinde farcie, c'était une blague, hein? Mais non, j'ai tout préparé. Aujourd'hui, c'est maman qui fait le service. Puis, il fut bien sûr question du grand classeur et de l'histoire de Sophie et d'Alberto. Pendant qu'ils dissertaient en long et en large, la dinde fut servie avec la salade Waldorf, du vin rosé et le pain en forme de tresse. Son père était en train de dire quelque chose à propos de Platon quand il fut interrompu par Hilde. « Chut ! Qu'y a-t-il ? Tu n'as pas entendu ? On aurait dit le cri d'une souris. Ah ? Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Bon, ce n'est peut-être qu'une souris. Mais tu sais, Hilde, le cours de philosophie n'est pas tout à fait terminé. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette nuit, je vais te parler de l'univers. » Avant d'attaquer le repas, il ajouta. Hilde est peut-être trop grande à présent pour être sur les genoux de son père, mais pas toi. Et en disant cela, il attira sa femme Marit sur ses genoux. Elle dut rester là un bon moment avant d'avoir le droit de toucher au repas. Et dire que tu vas avoir 40 ans.
En voyant Hilde courir rejoindre son père, Sophie eut les larmes aux yeux. Elle ne pourrait jamais l'atteindre. Elle enviait tellement Hilde d'être une vraie personne en chair et en os. Au moment où Hilde et le major passèrent à table, elle entendit Alberto klaxonner de la voiture. Sophie leva les yeux. Et Hilde ne faisait-elle pas de même? Elle sauta dans la voiture et s'assit à côté d'Alberto. On va rester là un petit moment pour voir quelle tournure prennent les événements, dit-il. Sophie acquiesça. Tu as pleuré? Sophie fit un nouveau signe de tête. Mais que se passe-t-il?
Elle en a de la chance d'exister réellement. Elle va grandir et devenir une vraie femme. Elle pourra certainement un jour avoir des enfants.
Et des petits-enfants, Sophie. Mais chaque chose a deux faces. C'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre tout au début de ce cours de philosophie.
À quoi penses-tu?
Je reconnais comme toi qu'elle a de la chance. Mais celui qui gagne le gros lot de la vie gagne du même coup le lot de la mort. Car le lot de la vie, c'est la mort.
Mais cela ne valait-il pas la peine d'avoir vécu, même si ce n'était pas une vraie vie, plutôt que pas du tout?
Nous ne pouvons pas vivre comme Hilde, ou disons comme le major. En revanche, nous ne mourrons jamais. Rappelle-toi ce que disait la vieille femme là-bas dans la forêt. Nous appartenons au peuple invisible. Elle-même disait avoir presque 200 ans. Mais lors de la fête de la Saint-Jean, j'ai reconnu des personnages qui avaient plus de 3000 ans.
Peut-être que ce que j'envie le plus chez Hilde, c'est sa vie de famille.
Mais toi aussi, tu as une famille. N'as-tu pas aussi un chat, un couple d'oiseaux et une tortue?
Nous avons quitté cette réalité-là.
Pas du tout. Le major l'a quitté, c'est différent. Il y a mis un point final, mon enfant. Et qu'il ne s'imagine pas pouvoir nous retrouver.
Tu veux dire qu'on pourra y revenir?
Autant qu'on veut. Mais nous allons d'abord nous faire de nouveaux amis dans la forêt, derrière la cafétéria Cinderella, à Fiané. La famille Mollerknag s'était mise à table. Un court instant, Sophie craignit que le repas ne tourne mal comme lors de sa fête philosophique à l'Allée des Trèfles. Le major semblait en effet décidé à renverser Marit sur la table. Mais il la fit vite se rasseoir sur ses genoux. La voiture était un peu à l'écart de la famille, toute à son dîner. Des bribes de phrases leur parvenaient. Sophie et Alberto restèrent à contempler le jardin. Ils eurent le temps de revivre tous les événements de la pitoyable fête au jardin. Il fallut attendre minuit pour que la famille Knag quitte la table. Hilde et le major se dirigèrent vers la balancelle, en faisant un signe de la main à la mère de Hilde qui s'éloignait vers la maison.
« Allez, va te coucher, maman. Il nous reste encore tellement de choses à discuter.